Good morning, Tantlus. God bless you. Happy to have you with us this morning again. Bonjour, Didier. Bonjour, Jimmy. Sois béni. Donc, on va prier. Après ça, je vous explique comment on fonctionne cette semaine pour les enseignements. Alors Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, merci pour cette occasion que nous avons encore aujourd'hui de plonger nos regards dans ta parole et de savoir que cette parole est donnée spécifiquement pour nous aujourd'hui et qu'elle sera spécifiquement accessible à tous ceux qui se joindront à nous au moment particulier pour lesquels, Seigneur, tu les amènes à entendre cette parole. Nous prions, Seigneur, que ces mots qui sortiront de ma bouche soient guidés par ta main toute puissante, par ton esprit, non pas reposant sur une sagesse, une connaissance humaine, mais assurément émanant de ton trône de grâce pour ton Église, pour ton peuple, pour cette génération-ci. Alors merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu continues à faire, et merci pour ce que tu vas encore faire. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis moi aussi, Seigneur, ce matin, par ce moment, Seigneur, d'enseignement et de partage. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vais juste m'assurer que tous mes volumes sont baissés. Parfois, ça nous joue des tours. Donc, je lis pour vous dans Luc au chapitre 4. C'est le même passage qu'on a étudié pendant 50 jours le matin. Mais au lieu d'être dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui le reprend, donc à Nazareth, un moment particulier où il se présente dans la synagogue de Nazareth et on lui demande de lire un passage. Il prend donc le rouleau qu'on lui remet qui est dans Ésaïe et il va lire le passage d'Ésaïe. Mais dans sa version du Nouveau Testament, il y a quelques altérations, quelques différences, je dirais plutôt. Et puis, c'est intéressant de s'y arrêter. Et c'est ce qu'on a fait le dimanche matin depuis 50 jours. C'est le texte qu'on a étudié le dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le terme important d'hier et puis développer cela tout au long de cette semaine pour qu'on comprenne particulièrement ce qu'est une année de grâce. Alors, je vais lire pour vous le verset 18 et le verset 19. Et puis, après ça, on ira dans l'explication du texte pour aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le terme sur lequel on va tout simplement se limiter cette semaine, c'est le terme grâce. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans la parole de Dieu, un terme qui est assez usuel aussi dans le lexique chrétien, protestant, évangélique. On a même un cantique qui est probablement un des cantiques les plus célèbres dans le chant gospel, qui s'intitule « Amazing Grace »,« Grâce infinie ». Et tous ceux qui ont passé un certain temps, si petit ou si court soit-il, à l'église, l'ont déjà entonné. Et tous ceux qui s'intéressent tout simplement à la musique gospel, assurément, vous l'avez entonné ou entendu. C'est un des hymnes importants de la chrétienté. Mais lorsqu'on parle de grâce, on fait l'erreur, surtout dans un passage comme celui d'aujourd'hui, de penser qu'on parle ici de ce mot grâce si fréquent quant au salut, quant au pardon des péchés et quant à la rémission de nos fautes. Le terme grâce tel qu'on l'interpréterait dans une question de salut, c'est plutôt le terme charis, C-H-A-R-I-S, C-H-A-R-I-S, qu'on va retrouver 156 fois Alors que le terme qu'on utilise aujourd'hui dans ce passage de Luc au chapitre 4, c'est le mot dectos qu'on ne retrouve que 5 fois, dont 2 fois dans le chapitre 4. Donc le terme qu'on va étudier cette semaine, c'est le terme dectos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on, oui, on va reprendre le texte qu'on vient de lire, donc dans Luc au chapitre 4, mais de surcroît à cela, on va l'illustrer, on va le partager avec le verset ou les versets dans lesquels le terme dectos revient dans la parole de Dieu, ce qui va nous permettre d'avoir un sens un peu plus précis, un peu plus étendu aussi du terme dectos, et on va assurément se rendre compte que dectos a un lien particulier avec la question du service, avec la question d'être au service de Dieu, d'avoir été sauvé pour devenir serviteur de Dieu. Donc le terme qu'on étudie cette semaine, grâce, dectos, D-E-K-T-O-S, D-E-K-T-O-S, et qui revient 5 fois dans le Nouveau Testament. Juste avant qu'on continue, parce que je la vois arriver et je veux vous donner le temps de faire ce qui est à faire, on a Yaoyi Laura Liang, donc Yaoyi, qui vient de se connecter et c'était son anniversaire samedi. Donc comme samedi, on n'est pas connecté, alors je vous invite ce matin à lui souhaiter un très joyeux anniversaire, même si ça a 2 jours de retard. Donc, on revient à notre texte, donc dectos, dans Luc 4, qui va s'interpréter avec le sens d'aujourd'hui, reçu. Regardons le verset 24, c'est là où ce terme est repris pour la deuxième fois. Le premier étant dans le passage qu'on a lu au verset 19. La deuxième fois qu'on le voit, c'est dans le verset 24. « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Je répète, « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et le terme donc avec lequel dectos est associé ce matin, c'est donc le terme être reçu, recevoir. Ici, on parle particulièrement, ou Jésus parle particulièrement, de la réception qu'on va faire à son message, de la réception qu'on va faire à l'annonce qu'il fait de lui-même comme étant l'accomplissement de la promesse qui a été faite dans Ésaïe. Et les gens vont se lever contre lui en disant « Ouais, mais c'est le fils de Joseph, on l'a vu grandir, on l'a vu faire ses bêtises d'enfant, on l'a vu tout simplement être un des nôtres, fils de Joseph, de Marie, alors comment peut-il être l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe ?» Et les gens vont douter de lui, voire même vont l'expulser de Nazareth, alors qu'il est effectivement tout ce qu'il annonce être, qu'il est effectivement la réponse qui devait être donnée à l'homme quant au péché et quant à son salut. Mais dans ce sens ici, il va parler donc qu'on peut recevoir quelqu'un bien ou mal. Si on le ramène dans le dectos qu'on a vu dans le verset 19, pour annoncer une année de grâce, donc annoncer une année de réception, une année dans laquelle on peut être reçu de la part de Dieu. Alors, ce que je veux te dire en tout début de séance ce matin, c'est que Dieu t'attend et que Dieu veut te recevoir et que Dieu a toujours voulu te recevoir. C'est un peu comme lorsqu'on arrive chez quelqu'un et on croit arriver un peu à l'improviste, mais on se rend compte que la personne a fait des préparatifs immenses pour que notre séjour chez elle, que ce soit quelques heures comme on avait l'habitude autrefois, il y a bientôt un an maintenant, de visiter nos amis, d'aller casser la croûte avec eux, de passer un petit moment et après ça de repartir. On se rend compte que lorsqu'on arrivait chez les gens, même si c'était un rendez-vous qui était fait sous l'égide de la bonne franquette, il y avait quand même une préparation qui était nécessaire. Et plus on est honoré de recevoir quelqu'un, plus grande est la préparation que nous faisons avant l'arrivée des gens. Donc ici, je te rappelle, Dieu t'aime, Dieu te veut auprès de lui, Dieu veut te recevoir, c'est son désir. Il y a ce cantique et ces images qu'on disait qu'il est là, les bras grands ouverts pour te recevoir, et c'est effectivement le cas. Dieu veut te recevoir. Alors, si on pense à cette terminologie de la réception, voici sept points qui vont nous illustrer plus précisément la réception que Dieu veut te faire. Un, ben, s'il veut te recevoir, c'est tout d'abord qu'il t'a invité à venir vers lui. Dieu t'invite à t'approcher de lui. C'est un peu comme, parce qu'on parle ici d'un serviteur, d'un éventuel serviteur, d'un serviteur en devenir quand il approche de Dieu. Donc Dieu est intéressé par tes services. Dieu est intéressé à t'avoir auprès de lui comme collaborateur avec Christ, comme serviteur de Dieu. Dieu est intéressé, Dieu a le désir de t'avoir et Dieu t'invite à entrer à son service. Donc, premièrement, il se fait connaître à toi en tant que maître. S'il t'invite, c'est donc qu'il lance une invitation, il fait entendre sa voix, il fait entendre son invitation pour que tu puisses venir à lui. Le fait que tu sois devant ton écran ce matin, c'est aussi une invitation que Dieu te donne à son service, puisque c'est la thématique que nous abordons cette semaine. C'est donc que toi, tu n'es pas le fruit du hasard devant ton écran ce matin, mais Dieu avait effectivement le désir de t'appeler et par l'entremise de l'humble serviteur que je suis, eh bien, il te proclame une fois de plus, il te déclare une fois de plus son désir à ce que tu joignes les rangs de l'armée de Dieu, que tu joignes les rangs du peuple de Dieu. Donc, premièrement, une invitation à venir vers le Maître. Voilà pourquoi Jésus va dire, c'est pas vous qui m'avez trouvé, c'est moi qui vous ai cherché. C'est moi qui vous ai appelé. Donc, le Seigneur t'appelle à venir auprès de lui. Moi, je n'appelle pas les gens que j'ai pas envie de voir. Quand j'appelle les gens, bon, ça arrive parfois qu'il y a des gens que j'appelle, j'ai un peu moins envie de les voir. Les gens disent, on n'appelle jamais l'impôt parce qu'on a envie de voir les percepteurs d'impôts, ou on n'appelle jamais son médecin tout simplement pour le plaisir d'appeler son médecin, tout comme on n'appelle pas son dentiste par plaisir. Ben, il y a des fois où on a des médecins qui sont très agréables et qu'on a envie tout simplement de voir pour jaser un peu, comme on dit ici au Québec. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous invite, c'est qu'il a ce désir de nous recevoir. Deuxième point, c'est que si il veut te recevoir, c'est qu'il prépare aussi ton arrivée. Jésus va dire, alors qu'il parle de l'éternité, il va dire, voici, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place. Et si ce n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus s'en allait pour préparer une place pour nous, hein, pour l'éternité avec Dieu. Le Seigneur nous a appelés, nous a établis, nous a choisis, nous prépare à rentrer en service avec lui, mais il prépare aussi le terrain pour que nous servions pour lui. Lorsqu'il va parler de Jérémie, le Seigneur qui se présente à lui va lui dire, voici, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé et établi comme prophète des nations. Ça veut donc dire qu'avant même que Jérémie ne soit fait, Dieu avait fait une préparation pour que dans cette génération qui était la sienne, dans sa génération contemporaine, il puisse effectivement servir Dieu comme prophète des nations. J'ai souvent eu l'occasion de le dire à travers toute cette année, tu n'es pas le fruit du hasard et le fait que tu vives actuellement dans ce contexte particulier de COVID et de pandémie, c'est parce que Dieu voulait assurément t'utiliser dans cette période-ci et dans cette espèce de méli-mélo dans lequel on est au niveau de la pandémie et de la COVID-19. Si Dieu avait voulu t'utiliser à une autre époque, il t'aurait fait naître à une autre époque. S'il avait voulu t'utiliser au 18e siècle, mais c'est pas aujourd'hui au 21e siècle où il t'aurait créé effectivement au 18e siècle. Si Dieu avait voulu t'utiliser dans 200 ans, ben il aurait attendu pour ta venue ici-bas sur terre, pour ta naissance ici-bas sur terre, pour dans 200 ans. Donc Dieu avait un propos particulier pour toi dans cette époque-ci, et pour toi aussi, à l'instar de Jérémie, il t'a donné des dons, des habiletés pour exercer un service dans cette génération-ci. Ça veut dire qu'il t'a aussi préparé pour cette génération-ci. Quand je regarde mon propre cheminement, je me rends compte, plus le temps passe, et puis maintenant ça va bientôt faire 50 ans que le temps passe, mais durant ces 50 ans, j'ai eu des préparatifs, des préparations qui m'ont mené à ce que j'ai fait plus tard dans ma vie. Je vous donnerai simplement un exemple. Je regarde un peu tout ce qui s'est passé avant le décès du pasteur Fontalvaux. Pendant un certain temps, j'ai accompagné mon bon beau-père et ma belle-famille dans un processus de cancer, de la maladie. Et j'ai accompagné donc le beau-père et j'ai aidé la famille autant que je pouvais dans ce contexte particulier qui était la maladie donc de mon beau-père. Par la suite, après son décès, peu de temps après, ben là, ça a été le pasteur Fontalvaux qui est tombé malade. Et là encore, l'expérience que j'avais acquise de façon tout à fait humble, l'expérience que j'avais acquise dans la situation de mon beau-père, mais cette fois-ci, j'ai dû la transférer à une application auprès d'un plus grand nombre, parce que là, je ne préparais plus une famille à voir le décès d'un bien-aimé, mais là, je préparais une assemblée, une organisation de surcroît à la famille immédiate à passer à travers le deuil imminent qui était la mort du pasteur Fontalvaux. Mais un événement après l'autre m'a préparé pour tout ce que j'avais à vivre par la suite. Donc le Seigneur aussi nous prépare à son service. Et c'est ce qui est fantastique avec lui. Il ne nous envoie pas à l'aventure, mais chacune des expériences, chacune des circonstances qu'on traverse est aussi une préparation que Dieu utilise afin que le jour où on doit être lancé dans le service, on ait été dûment enseigné, formé, préparé pour tout cela. Donc le Seigneur prépare ton arrivée au service. Deuxièmement, le Seigneur t'accueille à ton arrivée. C'est pas genre, bon, mais je t'envoie un mémo de loin, puis va faire ce que tu as à faire. Lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu, lorsqu'on rentre dans le corps de Christ, il y a effectivement un accueil qui se fait par Dieu. Cet accueil-là est effectivement le pardon de nos péchés. Cet accueil-là est effectivement d'être greffé initialement au corps de Christ. Cet accueil-là est effectivement un processus de transformation où on laisse notre ancienne vie de pécheur pour mener une vie maintenant qui se veut agréable aux yeux de Dieu. Donc, il y a un accueil que Dieu nous fait. Non seulement il nous invite, non seulement il prépare notre venue, mais quand on arrive, il y a aussi l'accueil. Et la Bible nous dit, on l'a mentionné à plusieurs reprises, notamment la semaine dernière, la Bible nous dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Ça veut donc dire que le Seigneur marque notre arrivée dans le corps de Christ, avec un accueil glorieux dans le ciel qui est tout festif par la repentance à travers laquelle nous passons. Et de surcroît à ça, il nous accueille aussi dans le corps de Christ. Hier, on avait une petite fille qu'on présentait à l'église, la petite Eva, une deuxième Eva en 2 semaines, la petite de Jeff et Vanessa. Et cette petite-là, on la présentait à l'église. Mais de surcroît à cela, lorsque nous procédons au baptême du croyant, donc le baptême du pécheur qui se repent et qui prend la décision de vivre pour Dieu, et je rappelle que le baptême doit être une décision personnelle qui ne peut pas être faite ni par un parent, ni par un parrain ou une marraine ou un aîné. Cette décision-là, voilà pourquoi elle incombe à quelqu'un qui s'est faire la différence entre le bien et le mal à quelqu'un qui connaît son état de pécheur et qui est prêt à passer par la repentance. Donc le baptême traditionnel des enfants n'est pas biblique en soi. On ne trouve aucun passage là-dessus. On trouve simplement l'explication de la présentation d'un bébé au temple, mais ce qui ne correspond pas du tout au baptême. Le baptême est cette identification à la mort et à la résurrection de Jésus, alors que nous passons par le baptême, par immersion, tel que nous l'enseigne la parole. Mais ce jour de baptême, c'est aussi une présentation à l'Église. C'est un acte public qu'on fait devant nos frères et nos sœurs, où on dit, voici, à partir de ce moment, on vous présente un nouveau-né dans la foi. On vous présente quelqu'un qui passe par ce processus de la nouvelle naissance spirituelle. Et voici le frère un tel ou la sœur une telle. Donc, c'est souvent l'occasion d'intégrer le corps de Christ, d'intégrer l'Église locale et de passer par ce processus d'accueil, ce processus d'arrivée. Donc dans le corps de Christ. Et le Seigneur fait cette même chose avec nous tous. Quatrième point, toujours pour dectos dans le sens de reçu, la réception, c'est aussi que lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu as une place qui est attribuée. Lorsque tu arrives dans le corps de Christ, il y a aussi ta place bien à toi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que comme Dieu t'a désiré depuis toujours, cette place t'a toujours appartenu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te voler de ta place dans le plan de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut, en bon québécois, te tasser, te mettre sur le côté pour te doubler et prendre et s'asseoir à ta place. Il y a une chaise. Sur cette chaise, il y a ton nom qui est marqué. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut s'asseoir sur cette chaise-là. Ça veut donc dire que tu as ta place. Il y a bien des gens qui roulent leur bosse durant leur vie ici-bas sur Terre, qui jour après jour essaient de trouver leur place dans cette société, dans ce monde, dans l'histoire particulière, contemporaine de l'humanité. Et ils arrivent au crépuscule de leur vie en se disant « Mais où était ma place? À quoi je servais ?» Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui a dénoté que je suis passé ici-bas sur Terre pendant ces 60, 80, 90 ans, 100 ans? Ou est-ce que je suis passé tout simplement sous les radars et personne n'a su me voir? J'aimerais te dire que dans le corps de Christ, même si l'homme venait à ne pas te voir, même si l'homme venait à ne pas te reconnaître, et je doute que ce soit le cas, mais même si effectivement, le corps de Christ ne te voyait pas. Tu as tout de même une place, et cette place est merveilleuse, grandiose, et mets tous les superlatifs que tu veux, parce que Dieu a une place pour toi dans son corps. Ça veut dire que même malgré tes défauts, malgré les points plus faibles que tu peux avoir, et je ne parle pas nécessairement de péché, je parle simplement qu'il y a des aptitudes que tu n'as pas et que quelqu'un d'autre a. Hier, je disais, et je ne l'ai toujours pas nommé, quelqu'un qui m'a changé les couches, ben, ce monsieur n'a pas nécessairement le don du chant. Il ne l'a toujours pas aujourd'hui, alors que ça fait pas loin de 40 ans qu'on est à l'église maintenant, ou un peu plus même, 41 ans cette année qu'on est à l'église. Donc, cette personne-là, elle n'a toujours pas la capacité de chanter. Donc, ça voudrait dire que si elle, cette personne-là, voulait être chanteur, directeur de louange, bien qu'à une certaine époque, il a déjà dirigé la louange, je ne comprends toujours pas comment il l'a fait, mais il a réussi à diriger la louange, si cette personne se compare à d'autres gens, je me compare à mon épouse quand elle chante, et puis si je le prenais très personnel, ben je serais triste, voire même particulièrement abattu, parce que nos voix ne sont pas à un même niveau. Là. Mais j'ai des talents que mon épouse n'a pas. Donc la personne qui a changé mes couches, le monsieur qui a changé mes couches durant tout, durant en tout cas quelques années, on va dire, mais cette personne-là a d'autres talents que de chanter. Et ces talents-là ont été pris, et là, bien sûr, vous savez que je parle de mon père, là, ces talents-là ont été pris et ont servi à la gloire de Dieu durant toutes ces années. Donc, toi aussi, tu as ta place. Tu ne seras peut-être pas chantre, mais peut-être que Dieu va t'utiliser ailleurs. Peut-être que tu ne seras pas le prédicateur dans une église. Peut-être que tu n'auras même pas un micro pendant une seconde ou deux pour avoir un moment d'attention. Mais peut-être que tu vas opérer dans les coulisses, tu vas opérer sous les radars des gens, mais tu vas faire quelque chose d'important malgré tout pour Dieu, parce qu'il t'a créé pour cela et parce qu'il avait ton nom dans ce travail. Donc tu as ta place dans le corps de Christ. Tu as ta place dans l'Église. Et j'espère que ça t'encourage de savoir que tu as ta place. De surcroît à cela, une fois que tu arrives, tu as été accueilli, tu as été invité, on a préparé ta venue, tu as été accueilli en arrivant, on t'a montré ta place, le Seigneur t'a montré que tu avais une place qui était attitrée, ben, le Seigneur te dit, je vais prendre soin de toi. Donc je vais te nourrir, je vais te faire grandir. Je vais m'assurer que ta croissance se poursuive. Je vais m'assurer que tout ce temps que tu passes avec moi te soit profitable pour que tu grandisses toi aussi en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut donc dire que Dieu nous prend en charge. Dieu, c'est pas le genre, ben, tu arrives et là, il te place dans une étagère et puis tu accumules de la poussière en étant comme un bibelot simplement. Non, tu es son enfant. Deuxièmement, tu es son serviteur, tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Et tant un enfant ne peut pas croître s'il n'a pas la nourriture appropriée, à un même sens, un serviteur ne peut pas servir longtemps ou ne peut pas travailler longtemps s'il n'est pas nourri, s'il n'est pas abreuvé, s'il n'a pas son temps de repos, si on ne veille pas sur lui au niveau de la santé, s'il n'est pas apaisé lorsqu'il a des inquiétudes ou autres. Ça veut dire que si Dieu veut t'utiliser, il est aussi dans l'engagement de la part de Dieu de prendre soin de toi. Il est dans l'engagement même de Dieu de s'assurer que ses serviteurs soient pris en charge pour qu'ils puissent servir l'Esprit en paix et qu'ils puissent servir Dieu dans les meilleures conditions qui soit. Donc Dieu va te nourrir, Dieu va t'abreuver, Dieu va te fortifier, Dieu, oui, va t'accorder du repos. Il y a des gens qui disent « Ah, mais l'Église va te brûler, l'Église va te faire mourir. » Non, non, ça voudrait dire que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Ça voudrait dire que si tu es fatigué, il ne te donne pas du repos. Alors qu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc même si tu es aujourd'hui un peu éreinté, même si tu es aujourd'hui fatigué, sache que ton repos, Dieu y veille et Dieu va prendre soin de toi. Voilà pourquoi le matin, je me présente devant vous. C'était encore le cas ce matin. J'étais particulièrement fatigué ce matin. Et puis maintenant, je me sens encore une fois revigoré. Mon partage avec vous, ben, Dieu pourvoit l'énergie, Dieu pourvoit la force pour qu'on puisse délivrer la parole qui est nécessaire ce matin. Donc Dieu va te prendre en charge. Par la suite, après la prise en charge, donc la nourriture, la croissance qui était nécessaire, le repos qui était nécessaire, le changement de vêtements aussi qui était nécessaire, puisque tu arrives avec une robe qui est souillée et il te donne un nouveau vêtement. On le voit dans la parabole du fils prodigue qui revient chez son père et on change ses vêtements qui sont tachés, qui sont déchirés, par une nouvelle robe scintillante, lumineuse, glorieuse. On lui met des chaussures aux pieds, on lui remet une bague à son doigt qui témoigne de l'autorité qu'il a en tant que fils de la maison. Donc dans cette restauration qui accompagne le salut, qui accompagne la mise en service pour Dieu, ben il y a aussi l'acclimatation ou la prise en charge. L'acclimatation maintenant. Ça veut donc dire que quand tu arrives à Dieu, tu dois comprendre qu'on ne connaît pas tout, C'est un apprentissage. On a vécu X nombre d'années sans faire attention à la foi, sans faire attention à Dieu, sans faire attention à notre relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et puis, du jour au lendemain, tu étais approché de Dieu. Puis maintenant, tu sais comment il parle, tu sais comment il respire, tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il aime et tu sais ce qu'il attend de toi. Il arrive des fois, effectivement, que Dieu se révèle de façon beaucoup plus étendue dans un court laps de temps en expliquant à la personne ce qu'il doit faire et ce à quoi il est appelé. Mais dans la plupart des cas, il va y avoir aussi un temps d'acclimatation. Pour Paul, ça a été un temps de 14 ans. Entre l'expérience de Paul à Damas et puis sa proclamation ou la proclamation qu'on fait de lui je crois, acte au chapitre 13, si je ne m'abuse, ou acte chapitre 11, un des deux, lorsqu'on voit que c'était dans l'église d'Antioche, je vais aller le chercher tout de suite, on voit qu'il est dans l'église d'Antioche, et on dit dans l'église d'Antioche, c'est acte chapitre 13, qu'il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, et Dieu va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Saul devient plus tard Paul, donc mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais entre le chemin de Damas où Paul rencontre Jésus, où Paul vient être confronté dans sa foi et à prendre une décision pour Jésus, jusqu'à ce moment où Dieu dit relâchez Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, il y a une période de 14 ans qui se passe. Donc il y a 14 ans dans lesquels Paul va s'acclimater au corps de Christ, Paul va développer ses talents, Paul va commencer à servir au sein de l'église locale et il va commencer à exercer un certain service. Donc il y a une période d'acclimatation. Le problème, c'est que plusieurs personnes voudraient prétexter être dans une période d'acclimatation pendant 50, 60 ans qu'il leur reste à vivre ici-bas sur terre. Pour être appelé serviteur, il faut servir. Pour que tu entendes le maître te dire lors de ton arrivée devant lui, le jour où il va venir chercher son église, ou le jour où il t'appelle à travers la mort à passer dans l'éternité, si tu veux entendre effectivement ces paroles de la part de notre Seigneur qui nous dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », ben c'est pas un serviteur en devenir, c'est pas un serviteur potentiel. Pour qu'ils te disent « bon et fidèle serviteur », c'est qu'il faut que tu aies servi. Il faut qu'il ait pu juger ton service. Il faut qu'il ait pu profiter de ton travail. Et dans le sens « profiter » dans le bon sens du terme. Il faut que tu aies été rentable, profitable pour le royaume de Dieu en servant. Donc pour qu'il t'appelle « bon et fidèle serviteur », il faut aussi que tu serves. Voilà pourquoi l'acclimatation, il ne faut pas se cacher derrière. Parfois, on parle de l'acclimatation tout simplement pour excuser notre paresse. Un jour, je servirai. Je ne suis pas encore prêt. On est tous prêts à servir d'une manière ou d'une autre. Peut-être d'une petite manière au départ, bien entendu. Puisque celui qui aura été fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier de plus grandes par la suite. Mais ces petites choses-là font partie de l'acclimatation. Je vous ai déjà expliqué que moi, mon premier service à l'église a été de laver le baptistère. Donc, je restais entre les deux assemblées qu'on avait à l'époque le dimanche. Je restais le dimanche après-midi à l'église pour laver le baptistère et le remplir en vue de la période de baptême qu'il y avait le soir venu. Donc, ça a été mon premier service. Par la suite, bon, ben, j'ai servi, j'ai joué la guitare auprès de mon père lorsqu'on était en France et à Shawinigan. Ça a été un de mes premiers services aussi. Par la suite, j'ai enseigné à l'école du dimanche lorsqu'on était en France. En revenant ici au Canada, j'ai servi au niveau de la jeunesse. Puis j'ai été pasteur jeunesse pendant un certain nombre d'années dans l'église. Et par la suite, bon, j'ai travaillé comme prédicateur dans l'église, comme co-pasteur, assistant pasteur, co-pasteur. Et aujourd'hui, Dieu m'a amené là où je suis. Mais il y a des transitions, il y a des acclimatations qui se préparent graduellement. Et on doit passer par cette acclimatation. Mais cette acclimatation veut aussi dire qu'on sert. Et le dernier point, lorsqu'on parle de reçu, c'est une mise à contribution. Il n'y a pas de moyen plus plus normale, plus authentique, de permettre à quelqu'un de se sentir comme chez lui, que lorsqu'il arrive chez toi et il te dit « Est-ce que je peux t'aider à quelque chose ?» Puis tu lui dis « Ah, prends le couteau là-bas, puis coupe-moi des oignons. » Tu es en train de finir ta recette, mais tu as besoin d'oignons et tu mets à contribution cette nouvelle personne qui vient d'arriver. Tu dis « Ouais, ben là, je suis pris avec la cuisine, mais peux-tu mettre la table ?» Et la personne, tu lui dis « Regarde, ouvre les placards, tu vas trouver les assiettes et tout ça. Débrouille-toi avec la table. » Cette personne-là se sent bien. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'arriver chez mon frère et ma belle-sœur et puis qui me dit « Ah, Florent, prépare telle chose » ou Daphné qui se met puis il dit à Mariana « Est-ce que je peux t'aider dans quelque chose ?» Et ils nous mettent à contribution pour aider dans une chose. Et ça permet de se sentir comme à la maison. Ça permet de se sentir comme chez soi. Pourquoi ? Parce que chez soi, ben on sert, on travaille, on œuvre dans la maison. Donc, lorsque je me présente dans l'église, après ce temps d'acclimatation, il y a aussi un temps de mise à contribution. N'oublions pas, nous sommes des serviteurs. Dieu accueille des serviteurs. Dieu n'accueille pas des touristes. Dieu n'accueille pas des gens qui vont se faire tout simplement héberger. Nous ne sommes ni des patients, ni des visiteurs, ni des touristes. Nous sommes des serviteurs qui arrivent dans la maison du maître. Donc, nous allons servir le maître. Donc, ce terme d'ectos qu'on étudie cette semaine, c'est un terme pour aujourd'hui, du moins reçu comme un serviteur. Et qu'est-ce qu'on a vu? Dieu t'a invité à venir, à t'approcher du maître. Donc, le maître a crié ton nom pour que tu t'approches de lui. Le maître a préparé ton arrivée au sein du corps. Le maître t'accueille à ton arrivée. Le maître a préparé une place toute spécifique qui te correspond pleinement et parfaitement pour toi dans sa maisonnée et dans son service. Le maître dit « Moi, je vais prendre soin de toi parce que je veux que tu serves. » Donc, il est de mon devoir en tant que maître de bien te nourrir, de bien te fortifier, de bien t'entraîner, de bien te préparer et de bien te former. De surcroît à cela, bien, il y a cette acclimatation. On vient de l'extérieur, on rentre dans la maison de Dieu et Dieu va faire en sorte que je puisse m'acclimater pour que non seulement je sache que j'ai une place, mais que je puisse aussi prendre ma place et que je puisse me sentir à l'aise et bien dans la place qu'il a créée de toute éternité et qu'il a pensée de toute éternité pour moi. Et dernier point, il nous met à contribution dans son service, dans sa maison. Nous ne sommes pas des touristes, nous ne sommes pas des pèlerins dans le royaume de Dieu, nous sommes des serviteurs dans le royaume de Dieu. Nous sommes des pèlerins ici-bas sur terre, mais servants dans le royaume de Dieu. Alors, d'ectos comme dans reçu, oui, mais comme dans reçu parce que désiré, d'ectos comme dans reçu parce que désiré pour être un serviteur de Dieu. Dieu te reçoit parce que Dieu te veut et Dieu te veut comme serviteur dans sa maisonnée, dans l'œuvre la plus glorieuse qu'on appelle l'Église de Dieu, le corps de Christ. Alors voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. Demain, on va continuer avec un autre passage et le terme qu'on va étudier demain sera le terme agréable. Donc aujourd'hui, d'ectos comme dans reçu et demain, d'ectos comme dans agréable. Alors sur ce, prions, après quoi je saluerai quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Alors Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci de préparer notre place de toute éternité au sein de ton corps, au sein de ton Église. Merci de compter sur nous, merci de nous faire confiance, merci de nous préparer, de nous prendre en charge, de nous fortifier pour que nous puissions servir. Oui Seigneur, ma sœur a sa place dans ton corps. Oui Seigneur, mon frère a sa place dans ton corps. Et oui, mon Seigneur, j'ai besoin de mon frère et de ma sœur à mes côtés pour servir en toute efficacité devant toi. Alors, je bénis ma sœur ce matin, je bénis mon frère. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce dectos de pouvoir être reçu par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, par le parfait maître, pour être tout le restant de notre vie et l'éternité au service du plus glorieux des maîtres, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, juste saluer quelques personnes. Je ne crois pas que j'ai tout le monde, en fait. Bonjour à Denise et Gérard. Ah, Yahoui, nous, on mentionne les anniversaires comme ça. Ça nous fait plaisir. Ça fait partie de l'accueil. Ça fait partie de faire partie de la maison de Dieu, de l'Église. Donc, on était très contents de te souhaiter un joyeux anniversaire, Yahoui. Et puis, je te dirai, et tu seras... Il y en aura juste quelques-uns qui comprendront. Jésus aimé. Voilà. Qui d'autre? Bonjour Rosie. Bonjour Tina. Bonjour Christophe. Bonjour aux enfants. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Et je crois que c'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle ce soir, 19h avec le pasteur André. Histoire sur l'Église du Nouveau Testament, sur l'Église primitive, le livre des Actes, 19h. Sinon, pour nous, on se retrouve demain matin, même poste, même heure, pour notre prochaine bénédiction. Demain, reçu comme étant agréable à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, et puis bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.